Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord dire combien je suis honoré et heureux de participer à cette réflexion autour du grand livre de Gérald Sturz. Il a choisi donc ce terme qui, dès le titre du livre, interpelle l'isonomie moderne. Alors, au guichet du Sénat où nous étions fourvoyés avec Olivier Beau tout à l'heure, on nous a demandé si c'était bien le colloque pour l'insomnie moderne. Non, ce n'est pas exactement ça, lui avons-nous répondu, et nous avons défini l'isonomie dans vos termes. J'espère que nous n'avons pas trahi votre pensée à cette occasion. Je ne sais pas non plus si la pariteur a été fixée ou pas. En tout cas, ce terme, il a effectivement ce grand mérite de s'intéresser à ce qui est vraiment central dans la réflexion politique depuis au moins la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Comment mettre ensemble, au fond, la démocratie et autre chose, et la recherche d'adjectifs pour caractériser cette démocratie dans tous les sens, démocratie libérale, démocratie agonale, montrez-vous, elle n'est pas aussi délibérative et donc pacifiée que Habermas le prétend, vous avez tout à fait raison de le dire, démocratie des droits fondamentaux, etc., etc. Vous proposez ce concept très éclairant, effectivement, d'isonomie, pour mettre ensemble la participation démocratique et la protection que l'individu moderne doit pouvoir obtenir de certaines institutions, au moins de l'État. Vous écrivez « Le système d'égalité forme voûte au-dessus de la démocratie et de l'État de droit », afin de réaliser, donc, au sens plein du terme, cette égalité en droit. Cette idée repose, me semble-t-il, sur une anthropologie que vous exposez d'une manière extrêmement savante et extrêmement minutieuse, à travers cette idée du passage, vous l'avez rappelé tout à l'heure pour introduire votre livre, du passage de l'ère des gradations à l'ère de l'égalité ou de l'égalitarisation des droits. Vous mentionnez à juste titre ce passage très saisissant de la démocratie en Amérique où il analyse l'insensibilité de la marquise de Sévigné, de la si sensible marquise de Sévigné, par rapport à la répression de désordre dans l'ouest de la France, et vous montrez que l'explication en est sans doute que cela ne concerne pas le monde de la marquise. Les insurgés victimes de traitements extraordinairement sévères, et elles ne font pas partie du même monde. Il s'agit donc d'installer d'abord un monde commun aux êtres humains. Et cet effort, il est évidemment toujours complexe, toujours précaire et fragile. Il faut noter d'ailleurs que l'ère de la hiérarchie peut parfaitement s'accommoder de proclamations d'un monde commun. Je voudrais citer des propositions de Bossuet dans sa politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte. Bossuet insiste sur un certain nombre de lois qu'il tire donc de l'Écriture, qui sont par exemple les suivantes, « Tous les hommes sont frères », ou encore « Les hommes qui n'ont tous qu'un même père doivent s'aimer comme frères ». Et Bossuet lui-même demande « Même les rois sont concernés par cela ». Et il répond « Oui », et je cite « À Dieu ne plaise qu'on croie que les rois soient exempts de cette loi, ou qu'on craigne qu'elle ne diminue le respect qui leur est dû. Nul homme, poursuit-il, n'est étranger à un autre homme, et encore, chaque homme doit avoir soin des autres hommes. » Ici, on a bien, à travers cette ère de la hiérarchie, l'affirmation tout de même d'une identité fondamentale des êtres humains dans l'âge des gradations. L'isonomie n'est jamais acquise, et bien sûr, il suffit de penser à l'expérience atroce, là aussi, vous avez rappelé tout à l'heure combien elle a été pour vous fondatrice, et pour l'Occident refondatrice, l'expérience du nazisme. Bien entendu, la manière dont les Juifs ont pu être considérés par les nazis comme des non-hommes, à force de métaphores sur des comparaisons avec des insectes, etc., finissent par obtenir d'abord, au niveau du langage, une expulsion des Juifs de l'humanité, et ensuite, évidemment, ce qui peut s'en suivre, à savoir que le traitement qu'on leur fait subir n'est pas vraiment un traitement subi par des semblables. On les a auparavant expulsés de l'humanité. Et bien entendu, à la fois les massacres de masse et ce qui les précède, par exemple le fait de parquer les Juifs dans des ghettos, etc., produit cette déshumanisation. Il y a notamment dans le film Shoah de Claude Lanzmann cette scène que je trouve très, très troublante, dans laquelle Jan Karski, qui a visité le ghetto de Varsovie pour en rendre compte, pour rendre compte de ce qui se passait au gouvernement polonais en exil, il dit d'une voix vraiment absolument hallucinée, à un moment, il dit: This was not humanity. Autrement dit, même à l'égard du témoin, les nazis avaient réussi leur entreprise de déshumanisation. Le titre du livre célèbre de Primo Levi, Si c'est un homme, montre bien justement le problème qui ici se pose. Il faut veiller à ne jamais perdre justement l'humanité de quiconque, y compris de ceux qui, dans les camps d'extermination nazie, étaient réduits à cette condition. Agamben a écrit là-dessus de très belles lignes, je trouve, à cette condition d'être déjà mort avant la mort et de résigner à leur propre mort. Il y a effectivement une tendance de l'être humain à ne pas reconnaître l'autre. Alors, il y a aussi un élément dans cet avènement de l'égalité, de l'isonomie moderne. Il y a vous en parlez, je trouve, assez peu, il y a ce moment du débat sur la tolérance religieuse, qui n'est pas seulement un débat entre catholiques et protestants, qui est un débat interne à chacun des camps en présence, par exemple. La controverse entre Bel et Jurieu sur la tolérance, cette espèce de glose sur des mots de saint Augustin, forcez-les d'entrer, que la hiérarchie catholique et beaucoup de protestants aussi à l'époque, c'est le cas de Jurieu notamment, interprètent comme une mission du croyant de convertir, si besoin par la force, les autres. Puisque lui détient la vérité et qu'il s'agit d'amener les autres à cette vérité. Et puis la thèse de Bel, qui sera reprise ensuite notamment par Voltaire au siècle suivant, la thèse de Bel qui insiste au contraire sur l'idée de tolérance et sur le fait que forcer-les d'entrer, ça ne veut pas dire essayer de les convaincre par la menace du fer et du feu d'épouser une foi dont ils sont libres de ne pas vouloir. La société des égaux, qui procède de cette idée, effectivement, vous le montrez très bien, a horreur des hiérarchies, et notamment des hiérarchies insupportables. On peut ici, par exemple, aussi évoquer cette expérience traumatisante qu'a été pour le révolutionnaire Barnave l'expérience qu'il a vécue aux côtés de sa mère au théâtre de Grenoble. Il assiste à une représentation théâtrale avec sa mère. Il y a une loge qui est libre et sa mère décide de s'y installer avec son fils. Et elle en est chassée d'une manière publique. Et donc, c'est une humiliation que subit publiquement la mère de Barnave et le jeune Barnave, parce que cette loge était réservée aux aristocrates et qu'il n'était pas question pour ceux qui ne faisaient pas partie de l'aristocratie, même en l'absence des aristocrates, de s'installer à de meilleures places. Aujourd'hui, dans certains théâtres, c'est remplacé par l'argent, et vous l'indiquez aussi, il y a cette question évidemment, de l'inégalité par l'argent qui a succédé pour beaucoup d'aspects à la vieille hiérarchie par l'appartenance ou non à un ordre. Il faut donc admettre l'isonomie, l'égale humanité de l'autre, faire prévaloir la sympathie envers ses semblables humains. On peut aussi citer Fidelio, œuvre créée à Vienne en 1814, au moment de l'occupation française. Il y a ces très belles paroles, dites d'ailleurs sur une musique absolument bouleversante du ministre, venu inspecter la prison où Fidelio était arbitrairement détenu. Le ministre dit ceci, je ne vous le chante pas, vous avez beaucoup de chance. Nein, nicht länger kniet sklavisch nieder, tyrannenstrenge sei mir fern, es sucht der Bruder seine Brüder, und kann er helfen, hilft er gern. Autrement dit, vous n'êtes plus aujourd'hui des esclaves soumis, la rigueur du tyran m'est étrangère, c'est un frère qui vient à la rencontre de ses frères. Et s'il peut leur être utile, c'est volontiers qu'il le fait. C'est donc la fraternité, une fraternité d'ailleurs limitée, vous le montrez bien, aux concitoyens très longtemps, parce qu'entre parenthèses, le Conseil constitutionnel français a négligé dans sa décision du 6 juillet 2018, si commentée à tort, me semble-t-il, qui agite une fraternité réduite, je dirais, ou plutôt élargie, mais donc réduite à une dimension de prêche un peu trop générale pour servir juridiquement. L'idéal dont vous parlez a ses textes fondateurs ou parfois refondateurs, certains connus sur lesquels vous revenez, le Bill of Rights, la Déclaration de la Virginie, la Déclaration d'indépendance américaine. La Déclaration universelle dont nous célébrons aujourd'hui à Paris, lieu de son acceptation par les Nations Unies, le 70e anniversaire, ou encore des textes qui sont beaucoup moins connus, en tout cas en France. Vous citez les magnifiques 12 articles de la paysannerie de Haute-Souabe de 1525. Les articles de doléances, surtout du pays de Wurtemberg, de la même année 1525, ou encore Christian Dom en 1781, de la réforme politique des Juifs pour l'admission à l'égalité des Juifs, ou encore le conventionnel Pierre Guillaumard en 1793 pour l'admission des femmes à un plein statut d'égalité. Ces deux éléments, participation, protection, il y a le problème des tensions entre elles, entre eux, pardon, entre ces deux éléments, et il m'a semblé parfois que vous les sous-estimiez un tout petit peu. Or, il me semble que si on va au bout de l'idée de protection de l'individu, on est conduit à un certain moment, limiter la démocratie, c'est-à-dire interdire au peuple de décider de certaines choses, dans la mesure où elles portent atteinte à ces droits qu'on a proclamés comme inhérents à la nature humaine, comme fondamentaux, etc. Ça a été un débat extrêmement vif au XIXe siècle, que l'on peut, à beaucoup d'égards, caricaturer, réduire à l'idée de la démocratie comme principe de gouvernement contre le libéralisme comme idée disons, de privilégier les droits des individus. Benjamin Constant, par exemple, je profite lâchement de l'absence de Lucien Jaume pour citer ce nom et un texte qui lui est cher. Benjamin Constant écrit dans ses Principes de politique: La souveraineté du peuple n'est pas illimitée, elle est circonscrite dans les bornes que lui trace la justice et les droits des individus. La volonté de tout un peuple ne peut rendre juste ce qui est injuste. Les représentants d'une nation n'ont pas le droit de faire ce que la nation n'a pas le droit de faire elle-même. Cela, évidemment, le conduit à être très sceptique sur le principe du gouvernement qu'est la démocratie. Il parle par exemple de l'horrible route de l'omnipotence parlementaire dans un de ses discours. Est-ce que la démocratie, comme principe, on l'a dit, du gouvernement, et la protection des droits de l'individu font nécessairement bon ménage? On peut l'espérer, ça a été l'espérance notamment des républicains sous le Second Empire, notamment de Prévost-Paradol. L'idée, c'est qu'il ne peut pas y avoir dans un bon gouvernement républicain de tension entre les libertés et la démocratie. Mais Tocqueville, lui, n'en jugeait certainement pas ainsi. Tocqueville qui craignait précisément que l'avènement de l'égalité à l'ère démocratique ne se traduise par un recul des droits de l'individu et par un recul des libertés. Il opposait le goût pour la liberté à la passion pour l'égalité et du coup prophétisait que la passion, évidemment, l'emporterait sur le goût et que, de ce fait, la société démocratique risquait d'être ce despotisme doux qu'il évoque à la fin de la démocratie en Amérique et qui ne présente pas un tableau très positif, je dirais, des progrès de l'égalité qu'il juge, encore une fois, pour sa part, inéluctable, mais qu'il n'aime pas, je dirais, fondamentalement, dont il ne pressent pas beaucoup de bienfaits pour les hommes de l'avenir. Alors, bien sûr, on peut essayer de récupérer l'idée de démocratie quand on aime les droits de l'homme, je dirais, quand on est libéral. Mais il m'a toujours semblé que cela grince, si je puis dire, et que, quel que soit le type de tentative que l'on fasse, on tombe ou bien dans un certain sophisme, par exemple, l'idée de Bruce Ackerman d'une dualistic democracy, il y a la démocratie supérieure qui est constitutionnelle et la démocratie inférieure qui est simplement législative. Et alors, évidemment, il est légitime que la démocratie supérieure l'emporte sur la démocratie inférieure. Il m'a toujours semblé que c'était quand même une manière un peu lénifiante de présenter les choses. Et on en vient ici, évidemment, à cette idée centrale de la justice constitutionnelle ou de la justice européenne, pareillement. Je ne pense pas qu'il y ait de différence fondamentale de ce point de vue entre la protection des droits de l'individu par l'une et par l'autre. Il y a effectivement la question de l'interposition nécessaire, de la volonté de l'interprète entre le texte constitutionnel et les conséquences qu'on en tire lorsqu'on juge la loi ordinaire à l'aune de ce texte supérieur. Peut-on faire abstraction de l'interposition nécessaire d'un juge, quel qu'il soit, c'est-à-dire de celui qui donne sens au texte? Cela me paraît difficile. La jurie constitutionnaire de Sieyès, qui n'a jamais vu le jour, était en réalité plus proche d'une assemblée parlementaire, il y avait plus d'une centaine de membres dans cette jury, que de ce qu'on appelle aujourd'hui une cour constitutionnelle, par exemple. Il y a ici un vrai problème que d'ailleurs ne me paraît pas résoudre l'élection des juges, dont il est régulièrement question, par le corps électoral. On reproche, ou vous en faites l'écho, par exemple, aux juges européens, aux juges internationaux, un manque de légitimité démocratique. Cela m'a toujours étonné, car en réalité, du point de vue de l'origine démocratique, la Cour européenne des droits de l'homme me paraît particulièrement irréprochable. Je rappelle que les juges de la Cour européenne des droits de l'homme sont élus au titre de chacun des États partis à la Convention, sur une liste de 3 personnes présentées par les gouvernements, et ils sont élus, après avoir comparu devant une commission restreinte de l'Assemblée parlementaire chargée de juger de leur mérite et de leur vertu et de leur talent, pour le dire dans les termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, ils sont élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. c'est-à-dire par les représentants élus des parlements des actuellement 47 États membres du Conseil de l'Europe. Quelle institution publique en Europe peut se targuer d'une origine démocratique mieux assurée? Et pourtant, c'est à la Cour européenne des droits de l'homme qu'on s'en prend souvent, pas seulement au Parlement de Westminster, malheureusement, en lui disant de quel droit des juges qui ne seraient pas élus, si ils sont élus, par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, viennent-ils condamner les États au nom des droits de l'homme, ces droits de l'homme que les États se sont, en devenant partie à la Convention européenne des droits de l'homme, engagés par un acte juridique obligatoire, pacta sunt servanda, à garantir à toute personne placée sous leur juridiction. Autrement dit, la réponse n'est pas forcément dans le degré de légitimité démocratique acquis par la Cour constitutionnelle ou la Cour internationale. Le problème est plus compliqué. Vous, par le terme d'isonomie, vous avez aussi le mérite de rassembler ces trois éléments que l'on a du mal, sans cela, effectivement, à mettre ensemble. Vous faites écho ici à la formule utilisée par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans son avis 8/87, avis sur l'habeas corpus dans des circonstances exceptionnelles. La Cour de Saint-Procès de Costa Rica écrit ceci, je cite, « Dans une société démocratique, les droits et libertés inhérents à la personne humaine, les garanties qui leur sont applicables et la prééminence du droit forment une triade. Chaque composante de celle-ci se définit elle-même, complète les autres et dépend des autres pour sa signification. » C'est, me semble-t-il, une manière moins synthétique, bien sûr, une manière de parler aussi de l'isonomie. Manière reprise par la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, dans deux arrêts contre la Turquie du 28 mars 2000, Kilic et Kaya, la Cour européenne des droits de l'homme a une formule qui est la suivante, la prééminence du droit, autrement dit l'état de droit, dans une société démocratique respectant les libertés et droits fondamentaux garantis par la Convention, on retrouve ces idées de participation, société démocratique, démocratie sans laquelle l'exercice des droits garantis par la Convention ne peut pas se concevoir, dit la Cour européenne des droits de l'homme, participation et, par ailleurs, protection de chaque individu par, précisément, ses droits solennellement garantis. La période de 1975 à 2001 a-t-elle été, comme vous l'écrivez, l'apogée de l'isonomie? Espérons avec vous qu'elle n'a pas dit son dernier mot et que le combat qu'elle requiert et qu'elle n'a cessé de requérir, qui repose sur cet équilibre difficile entre les différents éléments dont elle fait partie, vous en recensez six, et effectivement il y a un problème évidemment de part plus ou moins importante faite selon les systèmes à l'un des éléments ou à l'autre. Cette isonomie, donc, espérons tous qu'elle n'a pas dit son dernier mot.